Lève-toi, Seigneur, ce matin et viens communiquer la joie parmi ton peuple. Parle à quelqu'un, Seigneur, ce matin. Dispose les âmes pour que chacun t'écoute différemment, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Que ta présence, que ton amour soit notre partage. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es merveilleux pour nous. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration. À chaque instant de notre vie, quand tu nous fais du bien, Seigneur Jésus, nous t'acclamons parce que tu es merveilleux. Nous t'acclamons parce que tu es digne. Nous t'acclamons, Jésus, parce que tu mérites notre louange, parce que tu mérites notre adoration, parce que dans le ciel, sur la terre, tu es le seul qui règne. Règne encore ce matin. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous donne de nous retrouver devant sa présence, accompagné de la louange, de l'adoration. Oh, j'aurais bien voulu que la louange et l'adoration continuent, parce qu'il fait très beau ici. Amen. Cependant, le Seigneur a mis quelque chose qu'il voudra partager avec nous. Je voudrais dire merci à Dieu qui m'a sélectionné dans ce grand programme, combien bénissante, mais aussi une grande responsabilité de venir se mettre debout devant ce peuple aussi cher au devant de l'Éternel. Et je dirais aussi merci à l'homme de Dieu qui nous suit certainement au loin pour la confiance qu'il a eue à notre personne. Mais à vous tous aussi qui nous suivez au loin, que le Seigneur vous bénisse. Et à vous tous, l'Assemblée qui est là, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Le peu de temps qui est mis à notre disposition, nous allons devoir ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué 14, du 6e verset au 15e verset. Josué 14, du 6e au 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse gira en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, les Kénésiens haïssent jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé « L'œuvre du Tout-Puissant dans la vie de Caleb ». L'œuvre du Tout-Puissant dans la vie de Caleb. Et à la place de Caleb, tu peux même mettre ton nom. Tu mets José, André, Fiston, Jonathan et j'en passe. L'œuvre du Tout-Puissant dans la vie de Caleb. Bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'il déploie son œuvre dans la vie d'une personne, c'est pour changer cet homme. C'est pour que cet homme ne demeure pas la même chose. Si avant, tu étais une personne comme ceci, mais quand le Seigneur déploie son œuvre dans ta vie, tu vas devoir changer. Tu ne resteras plus la même personne. Et la vie de Caleb va beaucoup nous apprendre ce matin. Chaque fois que nous avons lu la Bible et qu'on parle de Caleb, une phrase revient toujours. Et cette phrase, c'est quoi? Il a pleinement suivi ma voie. C'est cette phrase qui revient en tout moment. Et dans les textes que nous venons de lire, cette phrase est revenue deux fois. Parce qu'il a pleinement obéi à ma voix. Nous comprenons, bien-aimés, que si le Saint-Esprit, qui est l'auteur principal de ce livre, a pu sélectionner cette phrase, c'est que cette phrase est d'une importance capitale. Et cela nous montre combien Josué, sur qui cette phrase a été dite, doit être un modèle pour nous. C'est donc un modèle incontournable pour les enfants de Dieu. Notre foi, ou sinon la foi de Caleb active, dépend de ce qui va nous donner quelque chose d'important dans la vie de chacun de nous. Et la qualité de la foi et l'obéissance, son obéissance vis-à-vis de son Dieu, nous montre combien nous aussi, nous pouvons faire la même chose que lui. Alors, revenant à moi-même, je me suis posé la question, qui est donc ce Caleb? Qui est donc ce Caleb? Qu'est-ce qu'il est réellement? Et quelle était sa mission dans les groupes qui accompagnaient Moïse et dans les groupes qui accompagnaient Josué? Qu'est-ce qu'il était réellement? Après avoir fouillé, je me rends compte que nulle part dans la parole de Dieu où on a mentionné qu'il a été général, qu'il a été un homme important. Donc, Caleb, c'est un homme ordinaire, comme toi et moi. Un homme ordinaire, bien-aimé, comme toi et moi. Et cela me pousse à comprendre que je peux marquer mon temps sans même être un homme extraordinaire. Tu peux marquer ton temps. Tu n'as pas besoin de devenir directeur quelque part. Tu n'as pas besoin de devenir ministre. Tu n'as pas besoin de devenir chef de division ou que sais-je encore pour que tu puisses marquer ton temps. Là où tu es, tu peux marquer ton temps. Je n'ai pas besoin, bien-aimé, d'être qui que ce soit pour que je puisse marquer mon époque. Gédéon, fils de Joas, dans le livre des Juges, à partir du premier verset jusqu'à même au 35e verset, là, nous voyons que ce jeune garçon, il était ici que d'une famille qui soit la plus petite dans Manassé. Et dans la maison de son père, il était le tout petit. Tout petit, le plus négligeable dans la maison de son père. Mais, ce jeune garçon, tout petit, issu de cette pauvre famille ou sinon cette petite famille a marqué son temps. Le Seigneur pourra choisir de passer par lui et dire, lève-toi vaillant héros et va. Ce matin, le Seigneur voudra que tu te lèves avec la force que tu as. Il se pourrait que tu es tenté de te minimiser, tu es tenté de penser que tu n'as presque rien, tu es inutile. Mais le Seigneur voudra te dire que tu as quelque chose. Ta façon de voir de ta vie n'est pas la même façon de voir de Dieu. Caleb apparaît pour la première fois dans la Bible alors qu'il a 40 ans. C'est pour la première fois qu'il apparaît. Il a fait partie de l'équipe de mission de 12 espions que Moïse avait envoyés à la terre promise. Il est dans un groupe comme étant un représentant d'une tribu. Lui, il va représenter la tribu de Juda et Josué a représenté Éphraïm, fils de Joseph. Et il y avait encore 10 autres espions qui ont fait partie de la grande mission. Il apparaît à un moment très déterminant de l'histoire des enfants d'Israël. À un moment décisif. Et Caleb ne veut pas rater cette occasion. C'est un moment décisif. C'est pour moi le moment de marquer mon temps. Je ne veux pas rater cette occasion qui se présente au-devant de moi. Il y a des gens bien-aimés qui ont raté leur première apparition. On te donne seulement une semaine d'intérim pour que tu puisses un peu travailler à la place du chef, tu vas détourner. La première fois seulement, on t'engage comme étant un enseignant dans une école, tu vas engrosser 2 filles à l'école. On te donne seulement d'être directeur dans une société, tu vas passer par des détournements. Ta tante te laisse seulement une fois, une semaine seulement dans la maison, tu vas faire de son mari ton amant. Plusieurs personnes ont raté leur première sortie. Ils ont raté. Alors, cet homme qui était ni serviteur de Moïse, ni général comme Josué, doit être pris comme modèle dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il a marqué son temps. Et notre texte de base que nous avons lu tout à l'heure là, nous parle d'un partage du territoire de la terre promise par tribu. Étant donné que Caleb appartenait à la tribu de Juda, normalement, il devait faire partie pendant qu'on était en train de distribuer les portions de terre à chaque tribu, son héritage. Normalement, lui, il devait venir comme juste étant un représentant de la tribu de Juda. Mais quand nous avons lu le texte ici, nous voyons Caleb venir individuellement pour réclamer la part qui lui revient, réclamer la part de son héritage. Alors je me suis posé la question, qui est cet homme pour venir réclamer la part qui lui revient? Est-ce parce qu'il était le plus vieux du groupe? Est-ce que parce qu'il était un ami à Josué ou comment? Qu'est-ce qui lui donne cette audace de venir faire cette réclamation? Qu'est-ce qui lui donne cette audace? Pour répondre à cette question, nous avons essayé d'énumérer 2 petits points pour notre exhortation de ce matin. Le premier point, nous l'avons intitulé « Une mission qui change tout ». Et le deuxième point, « Caleb est matériel didactique pour nous ». Une mission qui change tout. Par définition, une mission, c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. C'est aussi un but à atteindre, fixé par une autorité à son subordonné. La mission engage la responsabilité du chef qui l'a donnée. Elle est donc impérative à celui qui la reçoit. Donc, quand on vous donne une mission, partout où vous serez, vous serez en train d'engager la personne qui vous envoie. Si c'est la présidence qui vous envoie, quand on voit l'équipe de mission, on sait que c'est le chef de l'État lui-même qui est là au travers de ses hommes. Et donc, une mission, la valeur d'une mission repose sur la valeur des donneurs d'ordre de cette mission. Plus l'homme est élevé en pouvoir, plus la mission a de la valeur. Et la mission dont Caleb fait partie est une mission définie dans le livre de Nombre 13, 1 à 3. Nombre 13, 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes était chef des enfants d'Israël. Amen. Nous voyons ici, passant par Moïse, le donneur d'ordre, c'est lui-même l'Éternel. C'est lui le maître de la mission. Et laissez-moi vous dire, même ceux qui travaillent dans des entreprises, ils le savent, que plus on va en mission, plus on bénéficie du produit de cette mission. Et il y a des gens qui sont partis en mission et quand vous les voyez retourner, vous verrez s'il n'avait pas une maison, il achète une maison. Oh ni ni oh non, il est en mission. L'argent vient de la mission. Donc, la mission paye. Dans les entreprises, les gens le savent que lorsque vous allez dans une mission, c'est pour que vous puissiez bénéficier. Et les gens qui effectuent des grandes missions disent que la mission paye. Vous le verrez, juste après la mission, changer des choses, changer l'équipement de sa maison, changer sa garde-robe, changer sa voiture. Pourquoi? Parce qu'il vient de la mission. Les gens aiment la mission. La mission paye. Et les gens peuvent préférer le produit de la mission sans aimer la mission elle-même. C'est comme cela, vous le verrez, il est en mission. Mais au lieu de faire la mission proprement dite, il est là dans des chambres d'hôtel, il est là dans des magasins en train de s'acheter des vêtements, il est là en train de jouer à gauche et à droite, parce que pour lui, c'est le produit de la mission qui compte, et pas la mission elle-même. Et c'est comme ça, vous verrez les gens, quand ils viennent faire les rapports, ils viennent faire des rapports qui n'ont presque pas de sens. Biaisés, des rapports biaisés. Et comme il est de coutume au Congo, quand vous rentrez de la mission, au lieu de faire un rapport détaillé, il vient, il donne juste quelque chose à son chef. Chef, tel ambulo que vous tenez la mission Yangoy. Et lorsque vous venez avec les papiers, le chef, pour lui, il ne considère pas encore qu'il a eu le rapport de la mission. Nanou, nazui, et l'autre côté de la mission, nayo. Qui n'a pas encore donné. Mais chef, je suis déjà venu à donner les rapports. Ce n'est pas ça. J'attends les rapports. Et la mission de Caleb avec les 11 autres personnes, dont chacun représentait la tribu, une tribu d'Israël, était d'aller espionner les pays, la terre promise, ces pays-là qui leur avaient été promis. À la fin de la mission, ils devaient faire rapport. Et ils sont 12 personnes. Normalement, d'abord, chacun va d'abord faire la mission dans sa manière. Et à la fin, il y aura compilation des rapports pour faire un rapport unique qu'on va présenter aux donneurs d'ordre de la mission. Et L'Éternel avait très bien défini la mission, ou cette mission-là, et voire même Moïse avait très bien défini la mission. La mission devait constituer à aller voir si le pays était bel et bien un pays où coule le lait et le miel. Il devait s'assurer. Mais il devait aussi savoir, est-ce que les villes de ces pays sont fortifiées ou ce sont des villes ouvertes. Mais il devait aussi se rendre compte de se prendre des informations claires sur les peuples qui habitaient les territoires de la terre promise. Une mission qui devait être exécutée pendant 40 jours. Quelle mission? Quel produit de la mission? Si les hommes qui nous envoient dans des missions peuvent nous donner des frais de mission, Dieu aussi, lorsqu'il nous envoie dans une mission, il nous fait accompagner des frais de mission. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous en mission ici sur la terre. Tu es missionnaire, je suis missionnaire. Chacun doit jouer son rôle. Et Dieu nous a déjà donné des frais de mission. Des beaux vêtements là que Dieu vous donne, c'est pour la mission. La beauté là que Dieu te donne, c'est pour la mission. L'argent là que Dieu te donne, c'est pour la mission. La belle voiture là que Dieu te donne, c'est pour la mission. Ce sont des frais de mission dont nous rendrons compte le moment venu. La question est de savoir lorsqu'il te faudra rendre compte pour tout ce que Dieu t'a donné comme frais de mission, quel sera le rapport que tu vas donner. Chacun de nous devait faire rapport par rapport à la mission qui lui a été donnée. Et dans une mission, vous devez marcher selon l'esprit de la mission. Chaque mission a sa philosophie, chaque mission a son esprit. Et la philosophie pour la mission de Josué ici, de Caleb, c'est l'esprit de la mission de Dieu. Quand Dieu vous donne une mission, vous devez marcher selon l'esprit de cette mission. Et au retour de ces hommes, de cette mission, curieusement, au lieu qu'on ait un rapport compilé, on se retrouve en face de deux rapports. Un rapport qui a été signé par 10 missionnaires et un autre rapport qui a été signé par 2 missionnaires. Donc déjà, les gens de la mission se divisent. Et ces cas sont fréquents ici. Si les gens ne se sont pas très bien retrouvés, eh bien, moi, je vais donner mon rapport à ma manière. Le premier rapport qui va être exposé devant le peuple et devant Moïse fait état d'une confirmation que le pays est bel et bien le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est incontournable. D'ailleurs, ils ont même amené quelques produits de ces pays-là qui prouvent que le pays était bel et bien le pays où coule le lait et le miel. Cependant, pour le peuple et pour la mission qu'ils devaient suivre, ils se sont dit, tel que nous avons vu les gens qui habitent ces pays, et quand nous nous sommes regardés nous-mêmes, il n'y a pas match. Ça ne sert à rien que nous allions en mission là-bas. Ça ne sert à rien que nous allions là-bas. Nous ne pouvons pas prendre possession de ces pays. Parce que les géants qui sont là, nous sommes sortis comme des sauterelles à leurs yeux. Donc ça ne sert à rien. Et les rapports étaient faits en public. Et tous les enfants d'Israël étaient en train de suivre ces rapports. Ces rapports ici ont mené le découragement, les pleurs et les murmures au milieu des enfants d'Israël. Et même, quelques-uns se sont décidés de faire volte-face, de rentrer en Égypte. Pourquoi? À cause de ces rapports. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous envoie dans une mission, tu tel que nous sommes ici sur la terre, nous devons savoir que nous devons très bien préparer notre rapport de mission. Parce qu'il y a des rapports qui divisent. Il y a des rapports qui amènent le soulèvement. Il y a des rapports qui amènent des déceptions. Nous devons très bien donner notre rapport. Mais les deux autres, quand ils sont venus donner leur rapport, ils pouvaient dire, c'est vrai, ils se sont accordés à un point. Ils se sont accordés à un point tel que, effectivement, les pays là que nous avons visités, c'est bel et bien cette terre-là, où coule le lait et le miel. Mais, là où ils se sont séparés, c'est au moment où on devait parler des fils d'Anak, où on devait parler des géants. Pendant que les autres ont vu ces géants comme s'ils étaient leurs bourreaux, pour les deux autres, ils étaient en train de voir qu'ils étaient, ils pouvaient leur servir de pâture. Bien-aimés, les géants qui se trouvent au-devant de nos vies, nous ne devons pas les craindre. Ce sont juste des petits obstacles que lorsque nous marchons avec Dieu, qui tomberont du jour au lendemain. Et David avait cette révélation. Pendant que Israël pouvait faire 40 tours, chaque matin, ils allaient le matin, ils rentrent le soir, sans trouver la solution, sans qu'il y ait personne qui puisse combattre devant ces géants. Goliath, David pouvait se dire, si vous êtes en train de voir un géant, moi je ne vois qu'un incirconcis. David est en train de voir juste un incirconcis qu'il peut écraser en tout moment. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance de Dieu qui l'accompagnait. Bien-aimés, ayons l'assurance de Dieu qui nous accompagne. Ayons cette assurance. Lorsque nous marchons, lorsque nous sommes en train de faire des choses, que les obstacles ne nous effraient pas. Mais que les obstacles nous donnent encore la force pour dire on peut s'élever, on peut monter et prendre possession du pays. Et Caleb pouvait dire, nous pouvons monter et prendre possession du pays. Parce qu'ils savaient que le Dieu qui les a envoyés dans cette mission, il était capable de les accompagner pour prendre possession de ce pays. Ce Dieu est un Dieu fidèle. Il ne va pas se contredire. Il ne va pas mentir, il ne va pas vous donner quelque chose dont il sera incapable de vous donner. Non! Il ne peut pas mentir. Il pouvait dire, montons! Et emparons-nous des pays, de ces pays. Nous y serons vainqueurs. Nous comprenons, bien-aimés, que cet homme, que ces hommes avaient une autre façon de voir les choses. Quelle est ta façon de voir les choses dans ta vie? Ils avaient une autre façon de voir les choses. Là où les autres voyaient des échecs et ils étaient en train de voir la réussite. Là où les autres voyaient, ils se voyaient qu'ils étaient tout petits et ils étaient en train de se voir grands. Là où les hommes, les autres voyaient que c'est impossible et ils étaient en train de voir la possibilité. Je vais dire à un homme que rien n'est impossible pour ta situation. Rien n'est impossible pour ta situation. Les hommes, peut-être, ils ont dit des choses contre ta vie. Les limites ont été faites contre ta vie. Tu n'iras pas loin. Sache que Dieu, ton Dieu, est le Dieu tout-puissant. Josué et Caleb avaient la révélation sur la grandeur et la puissance de Dieu. Ils avaient encore à leur mémoire ce que Dieu avait fait il y a quelque temps lorsqu'ils étaient en train de traverser la mer Rouge. Ils étaient en train de penser encore à cette armée puissante. Ils étaient en train de revoir encore combien ces chars étaient en train de venir. Ils étaient en train de voir encore à cette armée capable de ravager n'importe qui. Mais cette armée était engloutie dans la mer Rouge. Ils avaient encore ça en mémoire. Bien-aimés, ce que le Seigneur a fait dans ta vie hier, que cela te montre, te pousse à savoir qu'il fera encore. Y a-t-il des problèmes dans nos vies? Tu penses que pour ton célibat, Dieu n'a pas de solution. Et tu es en train de t'effrayer. Tu te poses la question, si je me marie, c'est la question que tu te poses aujourd'hui. Tu regardes comme l'autre fois quand tu vas chez un ami, tu trouves beaucoup des assiettes sur la table, tu te poses la question, tout ça c'est celui qui a donné cet argent. Mais il trouve cet argent où? Alors tu as peur. Tu te dis, ça sera impossible pour moi de me marier. Un chômeur qui a besoin du travail, il se met devant l'entreprise qui veut solliciter, il regarde la grandeur de l'entreprise, il regarde les gens qui entrent là-bas et qui sortent avec des vestes et il se dit, ah ouais, ici, ce n'est pas moi. Ah ouais, ça grand goulou, ça, ah ouais. Non, ce ne sont pas des gros poissons. Les gros poissons, c'est toi. Peu importe les obstacles, soyons confiants que notre Dieu peut tout. Il n'y a rien sur la terre qui lui semble difficile. Accroche-toi juste à Jésus-Christ. Mets en lui ta confiance et il agira. L'argument des 10 autres espions était une insulte à l'égard de Dieu. L'Éternel des armées est incapable de faire posséder son pays, le pays qu'il a déjà donné. Parce que quand l'Éternel parle ici, il dit que j'ai donné, que je donne. Donc il a déjà fini, il a déjà clôturé pour ça. Il ne va plus revenir. Et ça va soulever la colère de Dieu. Tiens, moi l'Éternel des armées, c'est comme si le chef de l'État a déjà donné de l'ordre. Et il vient trouver encore, oh non, chef, il n'y a pas moyen, le directeur qui est ici a dit que nous ne pouvons pas tuer. Moi, le directeur, moi, le chef de l'État, j'ai déjà signé. Ça ne se fera pas. Et l'Éternel est fâché à cause de ça. Fâché. Et dans sa colère, il prend une grande décision pour ce peuple rebelle. Et pour les 10, et pour les peuples rebelles qui les avaient suivis. Deutéronome 1, 35 à 36. Deutéronome 1, 35 à 36. Écoutez ce que la Bible dit. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que je jurerai à donner à vos pères. Excepté Caleb, fils de Jephné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il y a deux sanctions. Ici. La première, c'est quoi? C'est que Dieu a choisi de punir ce peuple rebelle. C'est vrai, je vous ai donné ce pays où coule le lait et le miel, mais parce que vous êtes comporté en rebelle, vous n'y entrerez pas. Parce qu'après les dénombrements, on avait choisi les gens qui avaient plus de 20 ans. Quand on parle de cette génération ici, c'est les gens qui avaient, après avoir traversé la mer Rouge, il y a eu dénombrement. Et celles, les gens qui avaient l'âge commencé à 20 jusqu'au-dessus, qui avaient le droit de porter des armes. Et quand on compte cette génération, on ne compte pas les jeunes qui avaient moins de 20 ans. À partir de 20 jusqu'au-dessus. Et là, le Seigneur dit, parce que vous me connaissez très bien. Mais vous avez agi ainsi, vous n'entrerez pas. Peu importe ce que vous ferez, j'ai déjà dit et c'est terminé. Mais, quant à Caleb, fils de Jephné, lui qui a suivi pleinement ma voie, il entrera. Et la terre ou le territoire où il a foulé ses pieds, je le lui donne et à lui et à ses enfants.
Quelle bénédiction!
Voilà pourquoi quand vous l'avez vu en train de réclamer ici, il était dans ses droits. Il était dans ses droits parce que il avait déjà une promesse. Et lorsque vous regardez entre le temps où cette promesse a été prononcée et le temps où il entre en possession de cette promesse, il s'est passé jour pour jour 45 ans. Mais Caleb s'est attaché, s'est accroché à cette promesse jusqu'à ce qu'il le vive. Bien-aimés, accrochons-nous. Accrochons-nous dans la promesse de notre Dieu. Ne lâchons pas. Étant enfants de Dieu, nous sommes en mission sur la terre, comme je le disais, et nous avons besoin d'exécuter notre mission sans faille. Sans faille. En nous appuyant sur Jésus-Christ et nous entrerons dans sa félicité. Mais nous mangerons les meilleurs fruits du pays. Les meilleurs fruits nous attendent. Mais cela se prépare ici sur la terre. Tu veux manger les meilleurs fruits? Prépare-toi d'ici sur la terre. Prépare-toi pendant le temps de ta mission. Fais ta mission convenablement et donne un bon rapport et tu goûteras les fruits du pays. Et quand nous voyons Dieu accomplir cette promesse, nous nous disons que Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Quand il fait une promesse, il la réalise. Il a fait une promesse à Caleb, fils de Jephunné, il l'a réalisé. Si il a réalisé la promesse qu'il a faite à Caleb, fils de Jephunné, et c'est pour toi qui ne va pas être fidèle, si il a été fidèle à Caleb, il sera aussi fidèle pour toi. Il ne ment pas. S'il a donné à Caleb ce territoire de la terre promise, 45 ans plus tard, à toi aussi, il le fera. Voilà pourquoi, bien-aimé, Caleb était, même quand il était gravement malade, quand il pouvait marcher, il est gravement malade, il s'est dit, cette maladie-là ne peut pas me tuer, parce que j'ai une promesse. Quand il était souffrant, les choses n'allaient pas dans sa vie, il pouvait se dire, cette situation ici finira par passer. Pourquoi? Parce que j'ai une promesse. Tant que cette promesse ne se réalisera pas, je ne mourrai pas. Toi aussi, tu ne mourras pas avant que... Tu ne mourras pas avant que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Personne ne mourra sans voir cette promesse s'accomplir. Et lors de ce partage, nous les voyons réclamer ce qui était son droit. C'est une part individuelle qu'il a réclamée. Quand nous venons devant la présence de notre Dieu, venons d'abord individuellement. Ne venons pas comme cette foule de la bord de Matadi. Non, venons d'abord individuellement devant la présence de notre Dieu. Nous avons besoin que chacun de nous vienne individuellement devant la présence de notre Dieu. Parce que si nous venons en masse, c'est vrai, Dieu mettra à notre disposition le soleil. Il mettra à notre disposition l'oxygène, il mettra à notre disposition le vent, il mettra tout ce qui est général, il te le donnera. Mais les particuliers, tu n'en auras pas. La Bible est pleine de promesses et ce matin, nous allons chacun demander qu'une promesse s'accomplisse dans nos vies. C'est plein de promesses. Et chaque promesse a besoin de se réaliser dans la vie d'une personne. Tu peux te saisir d'une promesse ce matin et les réclamer auprès de l'Éternel. Il te les donnera. Deuxième point, Caleb, un matériel didactique. Un matériel didactique, c'est donc un moyen matériel maniable qu'on peut s'utiliser pour... enseigner ou sinon pour animer une séance d'enseignement.
on s'utilise de cette matière didactique. Et quand vous allez dans les écoles, à l'école maternelle, tout comme à l'école primaire, vous trouverez que le jour où l'enseignant va enseigner sur l'orange, il demande aux enfants de venir avec des oranges. Le jour où l'enseignant va enseigner sur, par exemple, la télévision, il fait sortir les enfants, il les amène dans un magasin ou dans une boutique où on leur montre des téléviseurs. Le jour où il va enseigner sur une personne humaine, on peut mettre un homme ou une personne devant pour qu'on puisse suivre l'enseignement par rapport à cette personne. Et Caleb constitue pour nous un matériel didactique. De par la vie de Caleb, nous avons beaucoup de leçons à apprendre, beaucoup de leçons à tirer. Mais ce matin, nous avons juste retenu 3 leçons. Mais les leçons sont multiples. Ce matin, nous avons juste retenu 3 leçons. La première leçon, c'est quoi? Avance quand les autres reculent. Quand le monde recule, toi avance. Sois comme Noé. Noé, à son temps, alors que tout le monde avait une direction contraire, lui, il a pris encore le contraire de la direction de ces gens-là. Vous allez à gauche, moi je vais à droite. D'habitude, quand on est seul, on croit que vous êtes dans le faux. Non. Il y a des gens qui sont même prêts à dire que la majorité, quoi? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. N'est-ce pas? Non. Lui, il était seul. Noé était seul dans sa génération, prenant une direction, et il avait la voix de Dieu. Les deux autres ici, les deux espions aussi, Josué et Caleb, étaient aussi deux personnes en face de tous ces groupes-là. Mais ils avaient la voix de Dieu. Ils avaient l'approbation de Dieu. Pendant que le peuple pleure ou murmurait, voulait même retourner en Égypte, les deux autres ici étaient animés de notre esprit. Quel est l'esprit qui t'anime? L'esprit de retour ou l'esprit d'avancer? Pour eux, ils étaient en train de voir qu'il fallait directement s'emparer de ce pays. Nous sommes déjà sortis de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on attend pour nous emparer de ce pays? Ils voyaient comme si, de la même manière que Dieu est en train de voir. Pour Dieu, il est en train de voir, ils sont sortis de l'Égypte, je vais les faire entrer dans les pays que je les ai donnés. Mais quelque chose a retardé. Les doutes, les mauvais rapports retardent les choses. Quand les autres reculent, et ils se disaient que les Cananéens nous serviront de pâture. Caleb a pris position pour Dieu au risque d'être lapidé par les peuples. Le plus souvent, lorsque vous prenez une position, on devient victime de beaucoup de choses autour de nous. Victime de beaucoup de choses. Yakan Saranine, il pense qu'il est qui? Bien-aimés, prenons les risques pour notre Dieu. Caleb a accepté de prendre les risques tel qu'il est. Et il savait que si je prends des risques pour Dieu, les meilleurs fruits là que j'ai vus de l'autre côté, je les mangerai. Prenons les risques pour le Seigneur et nous mangerons, nous goûterons aux meilleurs fruits qui sont de l'autre côté. Toi, tu ne veux pas te marier parce que les femmes, parce que tu as vu une femme divorcée, tu te dis que Wanesa souterre Kokendete. Non, avance. Ça, c'est son problème. Il a divorcé, c'est son problème. Moi, j'avance. Je ne vais pas reculer. Oui, je ne recule pas, j'avance. Tu ne veux pas t'engager dans les fiançailles parce que quelqu'un t'a dit que ma fiancée va Zakaloukouta. Non, engage-toi, avance. 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 Oh, les fiancés déçoivent toujours. Je ne peux pas m'engager dans cela. Tu as entendu que la vie pastorale, les pasteurs souffrent. Et tu te dis, devenir pasteur. On m'a dit que les pasteurs souffrent. Ils souffrent. Tu te dis, non, je ne peux pas. Tu ne veux pas chercher du travail. Parce que tu sais que les travailleurs, aujourd'hui, ne sont pas payés. Tu habites peut-être chez ton oncle, il a déjà fait 6 mois sans être payé. Tu te dis, même ce qui est dans quel cas, il y a un oncle. Ba oncle bangona ba futa bangote. Mon oncle n'est même pas payé. Il est là, il travaille sans être payé. Non, bien-aimé, avance. Tu recules pour rien, avance. Les femmes qui allaient au sépulcre savaient, ils étaient en train de se poser la question, qui nous roulera la pierre? Ils savaient, quand ils ont quitté la maison, ils savaient qu'il y a une grosse pierre là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avançaient. Ils avançaient. Qui nous roulera la pierre? Ils se posent la question, mais ils avancent. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se posent des questions et qui s'arrêtent. Nous sommes de ceux-là qui se posent des questions et qui avancent. Nous devons avancer. En faisant cela, nous mettrons Dieu en première position. Nous nous dirons, peu importe les circonstances, peu importe ce que je peux rencontrer, mais avec Dieu, j'avance. Caleb pouvait dire, si à la mer rouge il a agi, qu'est-ce que sont ces petits géants pour qu'ils n'agissent pas? Il est en train de voir ces géants petits. Parce que quand il regarde la mer rouge, il dit, oh, ce n'est qu'un petit géant. Et notre Dieu demeure le même. Hier, il avait agi. Aujourd'hui, il agit. Et demain encore, il agira. Dans ta vie, il agira. La deuxième leçon, c'est quoi? C'est que nous devons persévérer quand les autres tombent. Plusieurs personnes tombent. Et nous avons vu ici que Dieu avait prévu une punition pour tous ces peuples rebelles qui sont les contemporains de Caleb, qui sont de sa génération, qui sont ses amis, ou qu'il y a ses frères, il y avait ses cousins, il y avait ses nièces et tout ça. Mais puisqu'ils étaient rebelles, ils devaient tomber. Et tous ces gens-là étaient en train de tomber devant ses yeux. Ils pouvaient entendre un message, oh non, un tel est mort. Demain encore, il entend, oh non, non, une autre personne encore vient de mourir. Normalement, la mort de toutes ces personnes-là qui étaient en train de tomber devait décourager Caleb. Caleb pouvait se dire que, ah non, comme tous ces gens-là sont en train de tomber, moi je pense que moi aussi c'est dans quelques temps. Je vais mourir. Je suis en train de m'en aller. Mais lui, il s'est accroché à la promesse parce qu'il savait que tant que la promesse demeure, il mourra jamais. Il ne mourra jamais. Il pouvait se dire lui-même, le temps qui passe n'annulera pas la promesse que Dieu m'a donnée. Les hommes qui tombent ne vont pas annuler la promesse que Dieu m'a donnée. Les choses, les circonstances autour de moi ne vont pas annuler la promesse que Dieu m'a donnée. Il est là. Il ne se laisse pas dans les murmures. Il était là. Bien que cette promesse est en train de tarder, il se disait, même si la promesse tarde, attends-la. Il était en train de s'accrocher sur Habacuc qui disait, la promesse tarde, oui, mais la Bible dit que même si la promesse tarde, attends-la. Alors moi j'attends. Il était là comme ce sentinelle qui est en train d'attendre. La troisième leçon, c'est quoi? C'est achever quand les autres fléchissent. Nous devons achever ce que Dieu nous a donné pendant que les autres fléchissent. Caleb fait partie de deux générations. La première génération est de cette génération-là qui sont sortis de l'Égypte et qui ont tous péri dans les déserts. Pendant tout ce temps-là, Dieu a pris le soin de les effacer tous pour laisser une nouvelle génération. Et c'est cette nouvelle génération-là qui ont effectué leur entrée à la terre promise. Une personne seulement, deux personnes seulement de cette génération sont restées. Il y avait seulement Josué et Caleb. Et ils se retrouvent en face de cette nouvelle génération qui vont effectuer leur entrée à la terre promise. Il a été avec Moïse, les voilà aussi avec Josué, avec une nouvelle génération. Les voilà traverser le Jourdain, les voilà à la conquête de Jéricho, les voilà même, présents même le jour où Josué avait arrêté le soleil. Il était là présent, bien qu'on ne fait pas mention de lui, mais il était là présent. Mais là où il vient apparaître, c'est au moment où on doit partager. Aïe Maboko na poche. Il est venu réclamer son droit. Et il vient réclamer son droit comme un homme qui a travaillé. Il travaillait avec Moïse, travaillait avec Josué, et il est prêt encore à travailler. Il dit, donne-moi cette montagne. Comme pour dire, même si dans cette montagne il y a quoi que ce soit, je monterai et je travaillerai encore. Parce qu'il a fait mention qu'il avait encore la même vigueur. Quand on a la promesse de Dieu, on peut aller avec la vigueur même à 100 ans. On est fort. Alors le temps qui passe, que cela ne te décourage pas pour ta promesse. Ne te dis pas, qu'est-ce que je serai encore. Abraham avait déjà 100 ans. Mais il a pu avoir un enfant. Il avait encore cette force-là. Et lui, il pouvait se dire, c'est vrai, j'ai vu les jeunes qui ont commencé avec moi, mais qui se sont fatigués. Parce que les jeunes qui ont commencé avec lui, normalement, ils devaient conquérir tout ce territoire de la terre promise. Ils devaient les conquérir. Mais quand on regarde ici, plusieurs jeunes se sont arrêtés en cours de route. Ils ont abandonné. Mais lui, il était encore là. Il a continué. Il n'a pas fléchi. Il a continué jusqu'à ce qu'il laisse un héritage important à sa génération. Ne lâchons pas, bien-aimés. Ne lâchons pas, bien-aimés. Au risque de laisser à l'ennemi les progrès de toutes choses. En conclusion, Dieu recherche des disciples parmi les hommes et les femmes qui suivent pleinement les voies de l'Éternel. Qui, quand les autres reculent, et ils font quoi? Ils persévèrent, ils avancent. Et quand les autres fléchissent et ils avancent, ils sont dans la persévérance. Voulons-nous faire partie de cette équipe de vainqueurs? Que le Seigneur bénisse sa parole.